Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi 11 mai 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Salves de missiles étaient tirées depuis Gaza vers Israël. Au moins 24 martyrs, dont 9 enfants, au cours des agressions israéliennes contre la bande de Gaza. L'Iran réitère son soutien aux droits légitimes du peuple palestinien. L'Iran fait état également des progrès importants dans le domaine de la force aérospatiale. Le président de transition tchadien en visite officielle au Niger. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le bilan de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza. S'est alourdi à l'aube du mardi à 24 martyrs. Le bilan risque de s'alourdir. Dans une brève déclaration, le ministère a précisé que 9 enfants, dont une fillette de 10 ans, figurent parmi les martyrs. 103 personnes ont également été blessées lors des bombardements israéliens. Tard dans la soirée de lundi, l'armée de l'occupation israélienne a annoncé le lancement d'une offensive militaire contre la bande de Gaza. Lundi soir, la police de l'occupation israélienne a pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa, faisant usage de balles métalliques, de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes après l'avoir investi pendant 4 heures le matin même et avait attaqué les fidèles qui s'y trouvaient. Les deux des incursions ont fait plus de 612 blessés parmi les Palestiniens, y compris les ambulanciers, selon le Croissant Rouge palestinien. La tension à Al-Rots occupée a gagné la bande de Gaza après que les factions palestiniennes de la bande de Gaza aient donné à Israël jusqu'à lundi soir pour retirer ses soldats de la mosquée d'Al-Aqsa et du quartier Sheikh Jarrah et libérer les personnes arrêtées. Après l'expiration du délai, les factions palestiniennes ont tiré des roquettes en direction d'Israël, dont des 8 missiles sur Al-Quds occupés, tandis que des missiles ont visé des Ashkelon, Sderot et des colonies de peuplement limitrophes de la bande de Gaza. Dans un entretien téléphonique avec le chef du bureau politique du Hamas, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réitéré le soutien de l'Iran à l'égard des droits légitimes du peuple palestinien. Lors d'un entretien téléphonique de Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique du Hamas, a échangé avec Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, pour passer en revue la dernière situation dans les territoires occupés et les récentes attaques du régime sioniste contre les Palestiniens et la poursuite de la résistance du peuple palestinien. Au cours de cette conversation téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé la solidarité du peuple et du gouvernement iranien avec le peuple opprimé de la Palestine et a condamné les attaques du régime sioniste usurpateur contre les Palestiniens, en particulier pendant le mois béni du Ramadan, ainsi que l'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa qui a abouti au martyr à la blessure de fidèles innocents et sans défense. Et le chef de la diplomatie iranienne a fortement insisté sur les droits du peuple palestinien et a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran à la résistance palestinienne. Le commandant de l'armée de l'air et du corps des gardiens de la révolution islamique a souligné que ces dernières années, l'Iran avait fait de grands progrès dans les systèmes de radar, de défense aérienne et de guerre électronique. Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, en marge de la cérémonie d'intronisation du nouveau commandant de la base de défense aérienne de Khatam Al-Anbiya, a déclaré à propos des brillantes réalisations iraniennes dans le domaine des systèmes de défense aérienne. Dans le secteur de la recherche et de la construction des systèmes de défense, des radars, des missiles et des systèmes de guerre électronique, nous avons fait de nombreuses avancées au cours de ces dernières années. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé son homologue irakien Fouad Hussein pour lui faire part de la vive protestation de l'Iran contre, en fait, l'incident dont a fait l'objet le consulat de l'Iran à Karbala, qui contrevient à toutes les réglementations politiques et ainsi qu'à la convention de Vienne, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, rappelant à son homologue irakien la responsabilité du gouvernement irakien de maintenir la sécurité des sites diplomatiques dans le pays. Zarif a demandé l'effort énergique de l'Irak pour identifier les auteurs de ces actes illégaux. Le président de transition tchadien en visite officielle au Niger, le président du Conseil militaire de transition CMT du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Niamey pour une visite d'amitié et de travail où il a été accueilli à l'aéroport international par le premier ministre nigérien. Cette visite au Niger, la première qu'effectue le président du CMT à l'étranger en tant que chef de l'État, sera l'occasion pour échanger sur plusieurs sujets avec le président nigérian Mohamed Bazoum, désigné pour médiateur par ses pairs dans la crise que traverse le Tchad depuis la disparition brutale le 20 avril dernier du président tchadien Idriss Déby Itno, selon en fait une source proche du dossier. La police centrafricaine a arrêté lundi à Bangui un ressortissant français qui était en possession d'une importante quantité d'armes et munitions, a annoncé à la presse Eric Didier Tambo, procureur général près de la cour d'appel de Bangui. L'homme a été appréhendé à son domicile par des éléments de l'office central de répression du banditisme qui ont découvert des armes et des munitions de différents calibres, des tenues militaires, des outils informatiques, des appareils téléphoniques et un plan de la capitale, a-t-il précisé encore. L'OMC classe le variant indien comme préoccupant. Après plusieurs semaines de flambée de l'épidémie en Inde, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, donne au variant du coronavirus découvert dans le pays la qualification de préoccupant. Selon l'organisation, cette souche, initialement jugée comme d'intérêt, est plus contagieuse que le variant originel. Le variant du virus du COVID-19 découvert en Inde a été classé comme préoccupant, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, notamment parce qu'il est plus contagieux. Il y a des informations selon lesquelles ce variant est plus contagieux, mais aussi des éléments permettent de penser qu'il présente un degré de résistance au vaccin et par conséquent, nous le classons en variant préoccupant, a déclaré en fait de l'OMC. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Révolte d'Al-Quds, la résistance appelle à la mobilisation générale dans tous les territoires palestiniens. Ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ont lancé un appel en faveur de la mobilisation générale en Cisjordanie et dans les territoires palestiniens de 1948, soulignant qu'elle continuerait la bataille pour la défense de la ville d'Al-Quds et du quartier de Sheikh Jarrah. Vous n'êtes pas seul, peuple d'Al-Quds, nous sommes avec vous et nous ne vous laisserons pas seul, a dit lors d'une conférence de presse à Gaza un dirigeant du Hamas, Sami Abu Zahri. Tout notre peuple doit descendre dans les rues et affronter l'occupation, a-t-il souligné, et de poursuivre cette grande révolte à Al-Quds et sur les places de la mosquée d'Al-Aqsa. Cet esprit de sacrifice incarné par le peuple d'Al-Quds est une nouvelle preuve que le sort de la ville est entre les mains de ses habitants autochtones, que de son identité restera arabe-palestinienne et de que l'occupant sioniste n'y trouvera pas sa place, a-t-il souligné encore. Même appel de la part du mouvement de résistance islamique, djihad islamique, qui a appelé à accroître l'intifada et à accentuer la colère populaire dans toutes les régions de Palestine. Il a dénoncé le silence suspect des organisations internationales impuissantes et faibles, estimant que le besoin des organisations internationales est désormais celui de justifier les crimes de terrorisme organisés exécutés par les forces de l'arrogance. La révolte d'Al-Aqsa est la réponse la plus correcte à la normalisation et au compromis, a souligné de sa part le Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP, un membre du bureau politique du mouvement des fils du pays. Ahmed Khalifa a déclaré que tous les bras de l'occupation s'en lancent contre notre peuple sans dépense. Il a ajouté, notre peuple dit aujourd'hui qu'il n'acceptera pas une autre de Nakba, catastrophe, terme utilisé par les Palestiniens, signifiant la catastrophe en allusion à l'occupation de la Palestine et l'implantation d'Israël sur leur patrie. Quant aux membres du bureau politique du Front démocratique de libération de la Palestine, Talal Abou Zarifad, il a souligné que les incursions dans les lieux de saint, la confiscation des terres et les attaques contre les jeunes Palestiniens sont des crimes commis en plein jour et devant le monde entier.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Ce vendredi 7 mai, le dernier vendredi du mois béni de Ramadan marque la journée mondiale de Quds. À l'initiative du défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, qui a remis en effet la cause palestinienne au cœur de la conscience arabo-musulmane. Cette journée est considérée comme une occasion pour refléter la voix des Palestiniens sans voix qui vivent toujours sous l'oppression du régime sioniste. En raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus, les célébrations de la Journée mondiale de Quds n'ont pas lieu cette année, mais le leader de la révolution islamique vient de prononcer un discours très important. Dans son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que la question palestinienne reste toujours la question la plus importante de la communauté musulmane. Il a souligné que deux facteurs déterminent aujourd'hui l'avenir par rapport à cette question. D'abord, la poursuite de la résistance à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. Deuxièmement, le soutien des gouvernements musulmans à la cause palestinienne. L'honorable Ayatollah Khamenei a également affirmé que l'unité du monde musulman, en effet, conduirait un cauchemar pour le régime israélien. L'honorable Ayatollah Khamenei a noté que des tentatives désespérées du régime sioniste et de son supporteur, notamment les États-Unis, comme la normalisation des relations avec une poignée de pays arabes, était une tentative désespérée, en effet, de retarder ce cauchemar. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette journée importante et surtout le discours crucial du leader de la révolution islamique sur la question palestinienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous regardez toujours l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître André Chamy, juriste international et sociologue, et Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à vous tous, et merci pour votre invitation, surtout au professeur Dortiguier.
Maître Chamy, alors, selon de nombreux analystes cette année, eu égard aux récentes évolutions relatives à la question palestinienne, notamment les récents événements à l'intérieur de la Palestine occupée, la journée mondiale de Quds revêt une importance toute particulière. Quel premier regard portez-vous justement sur les célébrations de cette journée cette année, Maître Chamy?
Je pense que le premier regard que l'on ferait sur la commémoration de cette année-là, c'est la chute du mur de la peur. Aujourd'hui, la nouvelle génération palestinienne, animée par une idée enracinée maintenant sur leur volonté d'obtenir leur indépendance et la libération de leur territoire de l'occupant, les a rendus beaucoup plus forts, beaucoup plus courageux, beaucoup plus, incisifs dans leur démarche, que ce soit en territoire occupé, c'est-à-dire la Cisjordanie et autour, que ce soit à Gaza, et au sein du territoire occupé en 48, on sent qu'il y a des évolutions, on sent qu'il y a un tremblement comme un tremblement qui précéderait un tremblement de terre, et le tremblement de terre n'attend qu'une petite secousse pour faire exploser tous les. Nous sommes aujourd'hui à la veille de cette chute. Cette veille, effectivement, peut prendre quelques mois ou peut-être quelques années, mais l'évolution est déjà là et tout est prêt pratiquement pour que l'explosion ait lieu. Il suffit juste que l'étincelle qui est attendue, mais tout en étant dans l'amplification de l'action, tout en étant dans l'amplification de la révolte de la jeunesse, des plus anciens, mais toujours avec cette haine de la situation d'être occupé et d'être dominé, d'être sous l'empire d'un occupant ou parti criminel et aussi animé par des actions terroristes et par des actions qui deviennent de plus en plus insupportables pour l'humanité entière.
Merci infiniment pour ces précisions, Maître Chamy. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Codavandé. Bonjour à vos auditeurs. Et un grand merci, un grand bonjour à Maître Chamy, que j'ai écouté avec grande attention.
Monsieur le professeur, dans son discours, le leader de la révolution islamique aujourd'hui a souligné que le régime israélien continuerait de se glisser sur la pente du déclin. Il paraît que, justement, on l'a d'ailleurs répété à maintes reprises, c'est un régime qui est condamné à disparaître. Il paraît qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, les jours de cette entité d'occupation sont comptés, monsieur le professeur.
Oui, en effet, il s'agit là d'une fatalité pour le régime israélien. Cette fatalité consiste à imposer un État sur une spoliation générale et à ne pas reconnaître que le caractère sacré de Jérusalem est un caractère qui est d'Al-Qods, est un caractère qui est reconnu, disons, par les différentes confessions, bien sûr le mosaïsme, mais aussi le christianisme, l'islam, et avoir voulu confisquer, disons, cette terre au nom d'une divinité, alors que la plupart de ces dirigeants sionistes, il faut le dire, des troupes qui ont fait cette sorte de révolution, contre le peuple palestinien, venaient d'un pays qui était, il faut le dire, il y avait les États-Unis, il y avait également l'Union soviétique. J'aime à répéter que c'est l'Union soviétique qui a imposé cette notion d'État juif, disons, avec Romico aux Nations Unies en 1947. Bien sûr, les États-Unis ont suivi, mais il s'agit là d'un complot mondial, je dis bien le mot, d'un complot mondial de forces qui sont matérialistes, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir, disons, profiter d'un symbole sacré, afin, disons, de donner une autorité à ce qui n'est qu'une œuvre de dépossession, une œuvre, disons, de spoliation, je le redis, et ceci a été dénoncé bien avant la dernière guerre mondiale, par un juriste, M. Saadi Bississou, que j'avais lu à la faculté de droit à Paris, à Cujas, et qui parle très bien de cette dépossession des terres, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la Jewish Agency, l'agence juive, était en procès pour spoliation, elle était condamnée, mais on n'avait jamais les moyens de faire exécuter le jugement. C'est-à-dire de condamnation en condamnation, cette entité sioniste a pris le pouvoir. On ne peut pas avoir là de ruse plus diabolique, voyez-vous. Et je dois dire que ceci, disons, ne peut qu'apparaître avec le temps. Le temps ne peut que déchirer le mensonge. Le temps travaille contre ces comploteurs. Je dis bien le mot de comploteur aujourd'hui, on a tendance à crier contre les complotistes. Mais il y a eu des complots dans l'histoire, des complots qui ont réussi, avec ruse, mais nous savons, le noble Coran le dit, que la ruse de Dieu est bien plus importante que la ruse des démons.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Maître Chamy, le leader de la révolution islamique a en effet évoqué deux facteurs importants pour l'avenir de la question palestinienne, la poursuite de la résistance et de la lutte à l'intérieur des territoires palestiniens et la poursuite en effet du soutien à des pays musulmans, de la communauté musulmane, à ceux qui luttent justement pour la cause palestinienne. Dans quelle mesure justement ces deux facteurs déterminants pourront contribuer en effet à la réhabilitation des droits du peuple palestinien et à la libération en effet de la noble route, Maître Chamy?
Vous savez, moi, je dois être un peu pessimiste par rapport à la nation musulmane, mais je dois préciser une chose, c'est qu'il y a malheureusement il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans. Il y a des musulmans qui ont la foi en, leur, en eux et qui ont compris que la foi accompagne automatiquement le sentiment de justice, parce que l'islam est né pour lutter contre toute injustice. Et ça, beaucoup de musulmans l'oublient. Et effectivement, la République islamique d'Iran, qui incarne cet esprit que j'appellerais saint, évidemment, a été le premier pays du monde à avoir cet engagement aussi fort, aussi puissant, mais aussi enraciné dans l'action et dans les esprits par rapport au peuple palestinien. Dès le premier jour de l'arrivée de la révolution, c'était, je dirais, la première décision pratiquement, c'était la disparition de l'ambassade d'Israël à Téhéran et son remplacement par l'ambassade de la Palestine, alors que la Palestine n'existait même pas dans l'esprit de certains Palestiniens. Et ça, quand vous donnez la place à une ambassade pour leur donner le statut d'un État, ça veut dire que vous avez ouvert la voie à la construction d'un État. Et les premiers, militants qui ont soutenu la cause palestinienne pour rendre l'idée de cet État visible, réalisable et menaçant réellement l'occupant, c'était évidemment les Iraniens et plus particulièrement l'Ayatollah Khomeini, mais après lui, évidemment, l'Ayatollah Khomeini qui a continué avec le même flambeau et autour d'eux, l'ensemble de la classe politique iranienne a commencé par le régiment d'Al-Quds, et tout le monde aujourd'hui parle du rôle prédominant, pour ne pas dire prépondérant, du général Soleimani par rapport à la communauté palestinienne, parce que pour lui, le retour à Al-Quds, pour lui, c'était une mission sacrée pour laquelle il a consacré sa vie et, à mon sens, pour laquelle il est mort. Et il a été fait martyr. Pour lui, peut-être que c'était sans regret parce qu'il n'attendait que d'être martyr. Et pour ceux qui l'ont tenu dans son action, pour ceux qui ont cru en lui, évidemment, c'est considéré comme un drame, mais il y a une volonté de continuer après lui, et c'est ça qui me paraît le plus important. Mais en parallèle à ça, le soutien apporté par les islamistes d'Iran au peuple palestinien, aujourd'hui c'est visible. Il y a quelques jours, je regardais une émission sur ce lien entre le général Soleimani et la résistance palestinienne. L'ensemble des composants de la résistance palestinienne, tout bord confondu, était là pour dire on a eu un véritable soutien, le plus fort, le plus puissant et le plus fondamental, c'était évidemment le rôle de l'Iran et plus particulièrement le rôle du général Soleimani. Et ça, c'est le signal le plus fort. Et aujourd'hui, quel est le plus fervent opposant à l'antisémitisme et celui qui est considéré comme menaçant l'antisémitisme, c'est également la République islamique d'Iran. C'est-à-dire que c'est une guerre existentielle entre les deux et ça se terminera par la mort de l'entité sioniste et la renaissance de l'État palestinien.
Merci encore, Maître Chami. Monsieur le professeur d'Ortiguier, bien sûr, l'axe de la résistance ça, en effet, le martyr de la résistance, le général Qassem Soleimani avait toujours porté une attention toute particulière à la résistance palestinienne. Donc, bien sûr, en raison de ce soutien de l'Iran et des groupes de la résistance à la cause palestinienne, aujourd'hui, Israël se trouve dans une impasse. Le leader de la révolution islamique a souligné aujourd'hui qu'Israël, justement, a continué de vivre un cauchemar. Et il a tout fait, le régime sioniste et ses partisans, pour retarder, pour fuir ce cauchemar, y compris cette tentative désespérée de normalisation des relations avec une poignée de pays arabes, de pays en effet très très faibles dans la région. Il paraît qu'aujourd'hui, monsieur le professeur d'Ortiguier, le régime sioniste en effet n'a d'autre choix que de se soumettre à cette logique, à cette force de la logique de la résistance au niveau régional, monsieur le professeur.
Oui, en effet, vous le dites très bien, monsieur Codavandé, je me permets de le dire en toute humilité. Il y a une logique. logique, en effet, de la résistance. Cette logique a été, je dois dire, sur le plan juridique, formulée, ceci doit être connu, dès que Israël a présenté sa candidature, donc dans les circonstances que je vous ai dites, aux Nations Unies. Il y a eu une condition qui a été mise par les Nations Unies, condition qui n'a jamais été respectée, c'est que cet État fasse partie de la communauté internationale sous la réserve qu'il puisse restituer ce qui avait été spolié aux Palestiniens. Or, naturellement, sous prétexte que cette résistance était terroriste, etc., jamais les autorités israéliennes n'ont manifesté, disons, de remords quelconques ou de décision, par exemple, de vouloir composer avec les habitants. Ils ont, comme on le sait très bien, ils ont même brûlé toutes les archives, etc. Ils ont voulu faire, disons, ils ont voulu expulser, déraciner complètement les Palestiniens. Et donc, au congrès de Jéricho, puisque je réponds à Maître Chami, peut faire écho à ce qu'il a dit, au congrès de Jéricho, je crois que c'est 1948, c'est-à-dire après la proclamation de l'entité sioniste par Ben-Gourion, il a été décidé que la Palestine s'est elle-même reconnue comme appartenant à faisant partie, je cite les textes de la déclaration palestinienne de l'époque, comme faisant partie de la Syrie méridionale. Et ceci est très important. C'est-à-dire qu'on peut en tirer des conclusions aujourd'hui. Il ne peut y avoir de paix en Syrie. Il ne peut y avoir de paix à l'intérieur de l'ancienne, de l'Orient arabe. Il ne peut y avoir de paix qu'à condition que le problème palestinien soit résolu. Il n'y a qu'une seule façon de le résoudre, c'est de restituer les terres qui ont été volées. Bien. Alors, ceci est peut paraître inaccessible. Pourtant, c'est la loi. La fatalité, le destin lui-même, disons, y portera. Il y a une vieille formule, je terminerai là-dessus, vieille formule du professeur allemand Hegel au XIXe siècle. Il a fait un livre, une conférence sur le destin. Et il visait d'ailleurs le peuple juif dans ce destin. Il disait, le destin, c'est la conscience de soi, mais comme d'un ennemi. Et là, aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est la conscience de lui-même, mais comme d'un ennemi de ses propres intérêts, de l'intérêt de ses propres habitants. C'est-à-dire que ceux qui ont poussé les Israéliens, la colonisation sioniste, ne sont pas réellement des religieux. Ce sont en réalité des matérialistes, ce sont des athées, ce sont des bolcheviques, tout le monde le sait, n'est-ce pas ? C'est eux qui ont fourni les principales, et avec leurs correspondants, bien sûr, aux États-Unis. Tout ceci, disons, est contre l'intérêt des Juifs eux-mêmes, voyez-vous, bien sûr, de la communauté juive en général, mais il faut savoir qui manipule les ficelles, qui a poussé cela. C'est pour ça que j'aime souvent citer cette proposition russe de Staline, pas de fonder l'État d'Israël, en 1947-48. Bien sûr, de nombreux Juifs se sont laissés prendre dans ces propositions. Il y a même des attentats, vous savez, qui ont été faits en Égypte, dans d'autres pays, pour faire croire que les Juifs étaient, à l'époque, malvenus dans ces pays, et que donc l'État d'Israël serait une terre de sécurité. Au contraire, c'est une insécurité. Il faut justement que la conscience religieuse, sous quelque forme qu'elle apparaisse, disons, se heurte, disons, se dresse plutôt contre ce qu'on appelle des manipulateurs de la notion de Dieu, des manipulateurs du sacré. En réalité, des forces diaboliques, elles sont supérieures à nous, mais nous avons la foi, bien sûr, et en premier les musulmans, nous avons la foi que la puissance de Dieu est supérieure aux Russes des démons.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit d'un, pour la Palestine, les groupes palestiniens, la résistance, un combat désormais existentiel. Alors, quelle est la stratégie, les groupes de la résistance, le monde musulman devrait en effet adopter pour faire face au régime israélien dont la survie est plus que jamais en jeu, Maître Chami?
La stratégie est celle qui a été adoptée depuis quelques années, c'est-à-dire la stratégie de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est de se rapprocher de plus en plus de la frontière de l'entité sioniste, enfin la frontière supposée de l'entité sioniste, afin de créer ce sentiment de peur, y compris au sein de la population, parce que tant que la population se croit être en sécurité, évidemment, ils auront toujours l'illusion qu'ils peuvent vivre tranquillement. Aujourd'hui, quelle est la plus grande menace, me semble-t-il, pour l'entité sioniste, c'est le courant de départ, c'est-à-dire quand sa propre population commence à quitter le territoire occupé. Parce que, à partir du moment où vous ne vous sentez pas en sécurité dans un pays qui était censé vous apporter la paix, dans lequel vous êtes censé vivre paisiblement sans que l'ancien propriétaire, si je veux dire, de ce territoire, devienne vous troubler dans votre existence. Évidemment, c'est cette menace-là qui vous fera partir. Et aujourd'hui, me semble-t-il, d'abord, que le courant de départ s'amplifie, mais il y a une volonté, évidemment, de créer ce sentiment de terreur, parce que la population des alentours, notamment les Palestiniens, les Libanais, les Syriens et bien d'autres peuples, ont subi la terreur des attaques israéliennes. Mais aujourd'hui, cette peur, cette terreur s'est inversée. C'est-à-dire, quand vous voyez comment s'est ressenti les attaques de missiles du côté, quand ça vient du côté de Hezbollah ou quand ça vient du côté de Gaza, évidemment, ça, c'est une déstabilisation totale de tout le régime parce qu'il y a une question qui est posée par la population. On est venu pour qu'on soit en paix, puis finalement, vous, hommes politiques de ce pays-là, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter cette paix-là. Et c'est ça la question existentielle qui va se poser les prochains jours, les prochains mois. Et derrière tout ça, c'est le renforcement de la résistance, plus de terreur, et évidemment, il y aura un effondrement de l'intérieur, tous les coups de l'acte de la résistance qui nous seront tardés parce que, encore une fois, cette bataille aura lieu. La question est de savoir quand aura lieu cette guerre et cette bataille.
Merci. Monsieur le professeur d'Ortigay, il nous reste 2 minutes. Et pour vous, dans quelle mesure, en effet, cet inversement du rapport des forces, cet équilibre, en effet, de la terreur concernant la question palestinienne, jouera un rôle essentiel dans l'avenir.
Maître Chami a parlé justement de cette question existentielle. Il est certain que la population, l'insécurité de la population joue un rôle, bien sûr, aura un facteur. Mais disons, il ne peut y avoir réellement de renversement de situation que s'il y a une union des populations concernées, c'est-à-dire des populations palestiniennes, syriennes, etc., et des États musulmans en premier. C'est-à-dire que toute la région est solidaire. Tant qu'il n'y aura pas de solidarité réelle, effective, et si cette solidarité ne se manifeste pas, alors l'entité sioniste pourra subsister dans les massacres, subsister dans la terreur, disons une terreur partagée, du côté évidemment beaucoup plus partagée par les Palestiniens que par les Israéliens, mais disons une terreur commune quand même. Or, ceci ne peut s'arrêter que si les États prennent conscience. C'est eux qui sont responsables devant Dieu et devant l'histoire. Que si les États locaux prennent conscience qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre, de paix durable, si cette question palestinienne n'est pas résolue, n'est pas correctement posée. Or, les conférences jusqu'à présent ne l'ont pas faite. Et je crois que nous sommes au pied du mur et que ceux qui aujourd'hui pactisent avec la politique de M. Netanyahou dans les États arabes commettent un très grand crime contre leur peuple. Et seront responsables, justement, des malheurs futurs. Il faut, justement, qu'eux-mêmes sachent que leur propre trône, leur propre équilibre, disons, sera rompu. L'histoire, dans le vrai sens du terme, qui est dans les mains de Dieu, ne permettra pas, disons, à quelque chose d'absurde, de sanguinaire comme ça, de durer. C'est impossible. Je crois donc qu'il faut une solidarité totale des peuples et des gouvernements et des États locaux.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortigay, philosophe et politologue français, maître André Chami, juriste international et sociologue, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. La Palestine reste une question importante et prioritaire dans la politique étrangère de l'Iran. Le secrétaire général de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, Ali Akbar Velayati, a déclaré que la question de la Palestine reste de l'une des questions les plus importantes et les plus prioritaires de la politique étrangère de la République islamique d'Iran et a ajouté « Nous sommes à leur côté, non pas seulement dans l'arène politique et de diplomatie, mais dans un front encore plus élevé, à savoir à celui, en fait, celui de l'acte de la résistance. Ali Akbar Velayati s'exprimant à l'occasion d'une réunion virtuelle intitulée de la journée de Rhodes, la journée des opprimés organisée par l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, a rendu hommage à tous les martyrs palestiniens et à non palestiniens tombés sur le chemin qui mènera à la libération de la noble Rhodes. En particulier l'honorable commandant du monde de l'islam, le général martyr Rassem Soleimani. Il a ajouté « Ce jour est véritablement le jour de Dieu qui montre que la question de Palestine doit rester au premier plan des préoccupations et des questions stratégiques du monde islamique ». Pour le secrétaire général de l'Assemblée mondiale de l'éveil des islamiques, la journée mondiale d'Al-Quds est la réalisation de ces nobles objectifs qui est l'une des perspectives de l'éveil islamique, serait la source de l'ébullition des motifs constants et inébranlables pour la destruction du régime sioniste. La libération de Rhodes devrait être le point de confiance et le centre d'unité de l'Oumma islamique, a-t-il à insister. Après la victoire de la révolution islamique d'Iran, l'équilibre des forces a changé en faveur de la cause palestinienne, a déclaré le secrétaire général du Front populaire pour la libération de la Palestine, commandement général FPLP de CG. Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, Ahmed Djibril a ajouté « Les récentes victoires de la Palestine et de l'axe de la résistance sont les résultats bénis de la révolution islamique et de son soutien à la communauté islamique et surtout à la cause palestinienne. Les principes de la politique de la République islamique d'Iran envers la Palestine ont été cristallisés sous diverses formes. L'une des dimensions de cette politique pro-palestinienne de l'Iran est le jour de Rhodes qui montre la perspicacité et la clairvoyance de l'imam Khomeini, a souligné le chef du Front populaire pour la libération de la Palestine. La République islamique d'Iran est responsable à tous les niveaux. On poursuivit la voie tracée par l'imam Khomeini en soutenant la cause palestinienne, a-t-il précisé. En ce qui concerne le complot de la normalisation des relations entre certains pays arabes et le régime sioniste, ce militant palestinien a confié à l'IRNA « Il est dommage que certains en Palestine et à l'étranger tendent aujourd'hui la main d'amitié au régime sioniste et normalisent leurs liens avec cet ennemi, comme cela s'était en fait autrefois produit à Oslo. » En Jordanie, des manifestants ont appelé à la fermeture de l'ambassade d'Israël et à l'expulsion de son ambassadeur. Ils ont été tenus à distance de la représentation diplomatique par des forces de l'ordre déployées en masse. Expulser l'ambassadeur et fermer l'ambassade, abandonner l'accord humiliant et honteux de Wadi Araba, accord de paix conclu en 1994 entre Israël et la Jordanie, pouvait-on lire sur des banderoles tenues par des manifestants. Des messages de soutien en palestinien ont également été était brandi, résistez, ne faites pas de compromis. Patience au peuple d'Al-Quds, la victoire arrive. J'espérais que nous serions devant l'ambassade d'Israël pour la prendre d'assaut et faire sortir tout le monde. J'espérais qu'on pourrait aller devant le bureau du Premier ministre pour présenter nos demandes, a déclaré l'actrice jordanienne Juliette Avat lors de la manifestation à Amman. Issa de Dabar, un ancien diplomate de 81 ans, a également participé au rassemblement. Notre présence ici est la moindre des choses que nous puissions offrir aux Palestiniens, a-t-il souligné. Le mufti de la Syrie, Ahmad Badreddin Hassoun, a affirmé que la Syrie continuera à soutenir la cause palestinienne et la résistance jusqu'à la libération d'Al-Quds et de tous les territoires occupés. Le mufti Hassoun a expliqué dans son discours via une visioconférence et lors de la conférence des chercheurs de la Fédération mondiale de la résistance dans le cadre des activités de la Journée internationale d'Al-Quds que 100 pays avaient attaqué la Syrie pour la détruire et veulent qu'elle se soumette passe dans l'obscurité, mais elle avait vaincu le terrorisme et elle reste le véritable partisan de la résistance. Hassoun a souligné que la Syrie restera avec la résistance dans la même tranchée. Elle porte son drapeau. De son côté, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, a souligné qu'il n'était pas possible de libérer Al-Quds sauf avec la résistance, car les États-Unis et Israël utilisent toutes les possibilités disponibles dans le monde pour servir l'oppression et l'agression. L'argent des contribuables US ne devrait pas soutenir l'apartheid israélien, dit Rachidat Tlaib. Les affrontements entre les Palestiniens et les forces de l'occupation israélienne à Al-Quds de occuper ces derniers jours ont suscité des réactions de plusieurs politiciens américains de gauche, dont la représentante démocrate Rachida Tlaib, qui a appelé sur Twitter à ce que les impôts américains cessent de financer l'apartheid israélien à Al-Quds. Trop nombreux sont ceux qui restent silencieux ou dédaigneux alors que l'argent de nos impôts américains continue d'être utilisé pour ce genre de choses inhumaines, a tweeté Madame Tlaib, qui est née de parents palestiniens ayant immigré aux États-Unis. Je suis fatigué que les gens agissent par la peur plutôt que de faire ce qui est juste à cause de l'intimidation des lobbyistes pro-israéliens, a-t-elle ajouté avant de conclure. C'est de l'apartheid purement et simplement. Yémen, la résistance s'empare des positions saoudiennes à Najran. Et les forces de la résistance se sont emparées des positions et des renforts de l'armée saoudienne et de ses mercenaires dans la région d'Al-Zahra sur le front de Najran au sud de l'Arabie. Des sources militaires dans la capitale Sanaa ont précisé que les combattants de l'armée yéménite et d'Ansar Allah ont lancé une opération militaire contre les positions de l'armée saoudienne et de ses mercenaires au cours de laquelle ils ont réussi à contrôler les montagnes et les collines d'Al-Bah Rawar, dans le désert frontalier d'Al Jasher, situé entre Najran et Saada au nord du pays. Cette offensive a causé de grandes pertes humaines dans les rangs de l'armée saoudienne et de ses mercenaires. Les collines, qui sont désormais contrôlées par l'armée Ansar Allah, sont situées à 28 km de la frontière yéménite avec Najran, a-t-on ajouté de même source. Cette opération a été rendue publique par le média de guerre des forces yéménites. Il convient de rappeler que les forces saoudiennes avaient perdu 3 de leurs officiers lors d'affrontements frontaliers avec l'armée yéménite à Ansar Allah le 30 avril passé. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.